Retrouvons à présent Denis Kite, photographe nature eurélien, dont les clichés saisissants nous dévoilent une faune qui se dérobe bien souvent à nos regards, pourtant curieux. Cet amoureux des animaux est un homme sensible et respectueux qui met son objectif au service des sujets qui l'immortalisent et non l'inverse. Son regard sur la biodiversité de notre département vous donnera envie d'arpenter des chemins plus secrets dans l'espoir d'une rencontre. Denis Kite, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Peut-être certains de nos auditeurs auront découvert vos photographies l'été dernier à l'Esperluette.
Je l'espère.
Célèbre librairie de Chartres. En tout cas, c'est une exposition qui valait la peine d'être vue. Ce qui frappe d'entrée dans vos photos, c'est presque le rapport intime que vous avez avec les sujets que vous photographiez. Alors, Denis Kite, comment êtes-vous devenu photographe naturaliste?
C'est une longue histoire, en fait. La photo, je la pratique depuis très très longtemps, avec un temps d'éclipse. J'ai d'autres passe-temps, mais toujours en relation avec la nature. J'ai un très fort penchant pour l'entomologie, donc j'ai fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais la photographie a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que partager des moments que je vis avec d'autres, c'est la plus belle des choses.
Il y a cet aspect, j'allais dire presque philosophique, mais il y a aussi un aspect pratique. Vous étiez photographe avant, donc avant de vous intéresser à cette discipline qui est quand même très particulière.
J'ai commencé par de la photographie de nature, donc la photographie animalière avec de l'argentique. Certains de nos auditeurs s'en souviendront peut-être. Et j'ai renoué avec la photo, mais numérique cette fois-ci, il y a une quinzaine d'années. Et puis depuis, ça ne m'a pas lâché.
C'est, je ne sais pas s'il faut dire un passe-temps, c'est en tout cas une activité qui est pour le grand public toujours un peu mystérieuse parce que les photographes nature, on les imagine aisément sous des grands filets, habillés en kaki. Est-ce que c'est vraiment ça? Et comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous allez vers vos sujets?
Voilà une question tout à fait vaste et intéressante. Ah. Alors effectivement, le plus souvent, je suis en tenue terne, des filets de camouflage, etc. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon très classique de se promener et d'attendre que quelque chose croise son chemin. Le seul ennui, c'est que souvent, on voit l'animal de dos et la photo n'est pas très belle. Donc ça, c'est souvent ce que les débutants font. Et puis, on finit par passer à autre chose qui est la photographie d'affût. Alors, on va dans des observatoires, ça c'est tout à fait jouable, il y en a de plus en plus heureusement et ça permet de partager pas mal de choses avec d'autres personnes. Dans les affûts, finalement, il y a un certain confort, il faut attendre, il faut être persévérant et il faut être patient parce que les animaux font ce qu'ils ont envie de faire et ne sont pas à notre merci pour qu'ils viennent se faire tirer le portrait quand nous le souhaitons.
Vous parlez de patience, à quel point il faut être patient? Combien de temps faut être prêt à attendre?
Ça dépend où vous allez, mais bon, si vous êtes prêt à passer 2 ou 3 heures, on peut très bien faire une séance d'affût qui dure 2 ou 3 heures, et puis il ne se passe rien, ça arrive souvent. Ou alors il se passe plein de choses. On ne sait jamais à l'avance, et d'ailleurs ce qui est intéressant, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer.
Vous êtes à l'affût. À l'affût de quoi?
Souvent de tout ce qui va passer. Alors effectivement, bon, le plus souvent, selon les heures, on aura des mammifères, des chevreuils, des sangliers, des choses comme ça. Ou alors plus souvent des oiseaux. Donc il faut y aller plutôt le matin ou en soirée. Le matin, les animaux sortent pour s'alimenter, donc il y a beaucoup plus d'activité. Dès que la chaleur commence, il est évident que tout le monde va se réfugier en forêt et ça devient beaucoup plus difficile. Mais enfin bon, toute la journée, il y a quelque chose qui circule, mais les bonnes heures, c'est le matin et le soir. Et en plus, on a de belles lumières qui vont avec.
Est-ce que vous avez quand même des sujets préférés, des animaux que vous aimez particulièrement photographier et pourquoi?
Oui, j'adore les rapaces en fait, donc j'ai un net faible en particulier pour les hiboux. On a la chance d'avoir en Eure-et-Loire des hiboux des marais qui viennent passer la mauvaise saison. Il y a quelques endroits où on peut les observer, toujours à une certaine distance parce qu'il ne faut pas déranger. Et ce sont des animaux absolument fascinants.
Justement, vous parlez d'une certaine distance. Il y a une véritable éthique dans la photographie nature parce qu'il ne faut jamais être intrusif.
Tout à fait. aucun animal ne vaut d'être dérangé pour faire une belle photo. Voilà. Donc ça, c'est ma philosophie. Elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais j'essaie d'être le moins intrusif possible et de montrer que, à travers mes photos, les animaux ne savent pas que je suis là. Donc je les observe, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne vont pas être dérangés par ma présence.
En termes d'animaux, j'invite les auditeurs à bien sûr visiter votre site internet, on y reviendra à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez photographié? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature eurélienne?
En fait, on a toujours l'impression, lorsqu'on se promène, qu'on est dans les champs, qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors effectivement, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas la Camargue, ce n'est pas la Brière ou la Brenne. Il faut aller chercher ces sujets. Mais on a la chance quand même d'avoir une nature qui est relativement diversifiée, avec un certain nombre d'espèces patrimoniales. Alors évidemment, on peut aller les chercher dans les forêts du Perche ou plus proche d'ici. On a de superbes rapaces comme les bondrés ou certains faucons. Lorsqu'on va dans les plaines, on a la chance d'avoir ce fameux hibou des marais, mais d'autres animaux comme les eudicnèmes, qui sont des échassiers de terre, qui sont des espèces de grandes prairies. Et là, il faut être extrêmement discret pour pouvoir espérer les voir et les photographier. Après, bon, il faut savoir où ils sont et puis se camoufler et attendre.
Justement, le savoir, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que toutes ces espèces, finalement, vous devez les connaître.
Il est évident que si on cherche une espèce particulière, si on ne connaît pas sa biologie, son comportement, on est voué à l'échec. C'est absolument évident. Donc il y a une partie évidente de théorie, de connaissances. Et avec ces connaissances-là, on peut aller sur le terrain et essayer de trouver.
On va revenir à vos photos. Je le disais tout à l'heure, il y a déjà une présence de l'animal qui est très forte. Et aussi, on sent un lien, je disais, une intimité entre vous et l'animal qui est presque instantanée. À quel moment vous décidez d'appuyer sur le bouton? Qu'est-ce qui vous décide?
En fait, j'appuie souvent sur le bouton parce que rien n'est prévisible avec un animal. Bon, il y a des petites choses, on sait qu'il va décoller après un certain nombre de choses, mais voilà. Donc, trouver le moment adéquat, c'est relativement difficile à prévoir. Donc, il vaut mieux faire, Dieu sait qu'on a la chance d'avoir du numérique, donc on en fait autant qu'on en veut, mais le moment précis, il est difficile d'imaginer quand il va arriver. Il vaut mieux en avoir 100 et n'en garder que 20, parce que ça va être 20 photos qui parlent. Que de se dire, ça y est, j'ai tout loupé et je ne sais pas quand je vais revoir cet animal-là.
Est-ce que vous avez déjà eu des regrets des animaux que vous avez failli photographier et puis finalement c'est tombé à l'eau?
Des regrets, non, en fait non, parce que je vis l'instant présent, donc je vis ce que je vois comme rencontre. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne jamais louper complètement les séries que je fais, donc pas de regret à ce niveau-là. Par contre, l'envie évidemment de revenir, de faire des photos meilleures, c'est d'ailleurs ce qui nous guide à longueur de temps, c'est de faire des choses encore meilleures que ce qu'on a faites. Puis après, il y a des espèces, on va dire, emblématiques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas déranger et risquer quelque chose. Donc, si je sens que je ne suis pas prêt ou que je n'ai pas encore la technique suffisante, je ne m'attaque pas à ce genre d'espèce.
Vous parlez de technique. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient tentés par cette activité, quel serait peut-être votre premier conseil?
La patience. Il faut vraiment être patient et il faut aussi savoir se fondre dans l'environnement. Il faut que l'animal ne sache pas qu'on est là. Ou alors en ville, les animaux sont plus habitués à des comportements proches, donc là, ça va nettement mieux. Mais un animal dans la nature, on va dire sauvage, qui n'a pas l'habitude, il a une distance de fuite en Europe qui est relativement importante parce qu'on les enquiquine depuis des siècles et des siècles. Et donc, ils n'ont absolument aucune confiance en le bipède de base.
Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai, des terrains que vous visitez. Vous parlez de la ville, vous parlez d'espaces, les forêts, etc. Quels sont vos, j'allais dire, vos terrains de jeu, mais où est-ce que vous pratiquez?
Alors, j'ai plusieurs jardins secrets. Ah. J'ai la chance de fréquenter un affût qui appartient au club photo de Maintenon, qui se trouve dans un verger enclavé dans une forêt en vallée de l'Eure, avec une très très belle diversité et une très très belle proximité. Et là, on regarde sans déranger et c'est vraiment le top. Sinon, c'est vrai que je fréquente aussi la Grande Beauce pour aller voir des animaux peu fréquents, peu faciles à observer. On en a parlé, les Odinknem. Puis après, il suffit d'aller aussi regarder un peu certains sites internet qui répertorient les découvertes, les observations, et on fait en fonction.
Alors, parce que c'est quelque chose que vous faites aussi, vous participez aussi activement, alors notamment le site Faune France, ça je le sais puisque je vous croise moi-même régulièrement sur le site, c'est pas le seul, c'est important pour vous de participer de cette façon?
Ça a toujours été le début de tout, c'est-à-dire qu'une donnée n'est pas une donnée personnelle, c'est quelque chose qui doit rester à la communauté, et on ne peut affiner nos connaissances que si tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à ce genre de collecte. Et c'est très très important pour documenter en particulier tout ce qui se passe actuellement au niveau de la biodiversité. Et là, il y a beaucoup à dire sur le sujet, je pense. Et donc, Faune France, oui. Je publie aussi de temps en temps lorsque les observations sont vraiment intéressantes, etc.
Voilà. Mais justement, on va en parler des problèmes que rencontre la biodiversité. Est-ce que ce sont des questions auxquelles vous êtes sensible? En Eure-et-Loire, on parle notamment, bien sûr, de l'agriculture intensive et des monocultures. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez percevoir l'impact en tant que photographe?
Bien sûr. On parle beaucoup, évidemment, de productivisme. Alors, ce qui est évident, c'est que ces impacts ont été mesurés à l'origine sur les populations d'insectes, un sujet que je fréquente beaucoup depuis longtemps, et en Allemagne, et donc il est évident que tout le monde s'aperçoit que son pare-brise est beaucoup plus propre depuis quelques années maintenant, mais c'est évident que c'est le début de la chaîne et que tout ça se répercute beaucoup plus longtemps après. Alors évidemment, je commence à avoir un petit âge certain. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père et un père qui m'emmenaient très souvent sur le terrain. J'ai des souvenirs en Alsace d'avoir rencontré le grand hamster, qui est un animal très emblématique qu'on réintroduit maintenant, alors qu'il était tout à fait classique autour du village où j'habitais. Et donc, jusqu'à mes 10-15 ans, je rencontrais régulièrement cet animal. Et puis après, il a disparu. Entre autres, voilà.
D'accord. Photographe, on a un lien quasiment direct avec le public. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous soumettez vos photographies au public et que vous proposez des expositions comme celles qu'on a pu voir à l'Esperluette?
En fait, je vais faire la chose inverse. Je fais une photo, elle me plaît, et je pense que quelque part, c'est un acte politique, parce qu'il faut montrer ce qu'il y a. Et les gens, il y en a beaucoup qui ont perdu le contact direct avec la nature. Il y a de plus en plus de citadins en Occident. Et donc ils perdent le contact, ou ils ont un contact, on va dire, un peu fantasmé avec tout ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et donc il est très important que la nature rentre à nouveau, en particulier des animaux que personne n'observe plus. Et donc il faut les faire rentrer en ville pour que les gens s'aperçoivent qu'il y a des choses autour d'eux.
Vos photographies, comment est-ce qu'on peut faire pour les voir?
On m'a demandé à plusieurs reprises de faire des petites expositions, donc je m'y soumets fort volontiers. J'ai un site internet, donc il suffit de chercher mon nom de famille et puis les deux ou trois sites apparaissent relativement facilement. J'alimente un compte Facebook uniquement pour cette activité de photographie. Et voilà, je n'ai malheureusement pas le temps de me concentrer 100% sur cette activité. Et puis je pense qu'il y aura une certaine lassitude à force, donc on fait les choses comme on peut.
Le temps, puisque vous nous dites qu'il faut beaucoup de patience et par ailleurs vous avez une activité professionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui estiment qu'ils n'ont pas assez de temps à consacrer à la nature et notamment à la nature eurélienne?
Alors je vais peut-être non pas dire ce que je fais moi, mais j'ai un collègue qui est infirmier, qui tous les matins se lève très tôt, qui va faire 2-3 heures de photographie, et qui va au travail après. J'ai la chance d'avoir un travail qui me laisse quelques libertés dans la semaine. Donc je prends une demi-journée par semaine, le matin, pour aller faire de la photographie. Mais évidemment, cela a son prix. Ce que je ne travaille pas le matin, je vais le travailler en soirée ou le week-end, et ça ne me pose aucun problème.
Qu'est-ce que vous retirez de cette activité au final? Parce que donc c'est du temps, c'est de l'investissement. De quelle façon elle vous nourrit?
Elle me nourrit, on va dire, spirituellement, parce qu'effectivement, être en contact avec la nature, pour moi, c'est une grande source de calme, de sérénité. C'est quelque chose qui déstresse beaucoup. Et donc, être loin du bruit et du brouhaha, c'est quelque chose que j'adore. D'un autre côté, il y a la beauté des formes, des structures. Enfin, tout ceci fait que c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant intellectuellement.
Eh bien, Denis Kite, merci infiniment pour ce témoignage, en espérant qu'il inspirera nos auditeurs à vous suivre, à être dans vos pas de photographe. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli. Merci.